进步。
Moi, je suis André du mouvement et au Cachin oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Combatie au Cachanga. Je pense qu'en combinant les deux, je vais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute des paroles aux auditeurs, une émission des Radio Capi qui permet à tous les Congolais sans distinction de s'exprimer sur les faits marquant l'actualité de tous les jours ainsi que leur quotidien. Aujourd'hui, mercredi 2 septembre 2009, toute l'équipe des paroles aux auditeurs vous tient compagnie. Pierrot et le Meiji à la présentation, Julie Feza et Titi Poto. Vous allez tout de suite vous exprimer sur la grève amorcée il y a 3 jours par les médecins du secteur public de la ville de Kinshasa. Ils revendiquent l'application de certains points contenus dans le statut spécifique de médecin et le réajustement des salaires et primes. Dans leur cahier des charges, le médecin réclame également l'exécution des accords signés entre le gouvernement et leur syndicat, le Sinamed, en date du 20 août dernier. Dans un communiqué, le médecin promet de passer à l'opération hôpitaux sans médecin d'ici lundi 7 septembre prochain. Ceci nous pousse à parler des conditions du travail dans les hôpitaux de la RDC. Quelle est la situation dans votre milieu? Comment améliorer les prestations dans les hôpitaux sur l'ensemble du pays? Nous en parlons avec le docteur Auguste Mopipi Mukulumanya et le ministre de la Santé du gouvernement central. Vos points de vue, réactions et suggestions sont les bienvenus. Madame, messieurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
La réalisation me fait signe que notre invité, c'est le docteur Auguste Mopipi Mukulumanya. Il est déjà en ligne. Il est ministre de la Santé du gouvernement central. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, je voulais apporter un petit rectificatif. Je suis pharmacien et pas encore docteur en pharmacie.
Merci bien, monsieur le ministre. On a noté, tout de suite, vous avez suivi, comme nous avons présenté à l'entrée de cette émission, ce problème de la grève amorcée par le médecin de Kinshasa. Comment réagissez-vous face à ce énième mouvement de grève amorcé par le médecin?
Eh bien, je crois que le médecin, dans les revendications, pose le problème de l'application de leur statut spécifique dans les services publics de l'État. Et puis, sur le plan financier, je regrette que le problème soit tenu par le gouvernement sur les arriérés de primes, sur le protocole d'accord du 20 août 2008. Alors, sur l'ensemble des problèmes qui avaient été déjà étalés au niveau du Premier ministre, même à mon niveau le lundi passé, la position du gouvernement est la suivante. S'agissant du statut, disons de la des mesures d'application du statut spécifique des médecins, nous avons pu mettre en place une commission qui va rapidement élaborer les dispositions d'application du statut des médecins des services publics de l'État. Donc le travail est déjà amorcé. D'ici 5-10 jours, on va arriver à terme du travail et je pense qu'on aura résolu ce problème. S'agissant des réclamations financières, eh bien là, je crois que nous devons faire une rencontre avec le ministre du Budget et des Finances pour examiner les revendications des professionnels de la santé, monsieur le médecin. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de revendications qui constituent aujourd'hui des arriérés. Il y a des revendications qui constituent des ajustements par rapport à la prime de la fonction académique des professeurs ordinaires de l'université. Il s'agit aussi des primes, disons, des risques de mois de février, mars pour certaines provinces, les provinces de Kassai Oriental, Katanga, Nord-Kivu. Et il s'agit évidemment du protocole d'accord du 20 août 2008. Alors, pour l'ensemble de ces revendications, je crois que la position du gouvernement est claire à ce sens que nous disons, nous allons essayer de voir dans le cadre des prévisions budgétaires de cette année, quelles solutions on peut apporter à toutes ces revendications. Et j'ai entendu que cette occupation dans le secteur de la santé ne sont pas singulières. Parce que de l'autre côté, il y a aussi les pro-santé, les administratifs, qui, pour l'ensemble, et les médecins et les pro-santé, font des revendications de l'ordre de 38 milliards. Les seuls médecins, ils exigent 25 milliards pour, si vous voulez, défendre, disons, dans le cadre du collectif budgétaire, sans compter toutes les autres arriérés qu'ils ont consignés dans un document, hein, soumis à l'appréciation du Premier ministre et du ministre de la Santé, donc du gouvernement. Et les pro-santé administratifs, pour eux, ils exigent quelque chose comme 13 milliards. Donc, si on fait la sommation, on est à quelque chose comme 40 milliards
de francs congolais.
Or, l'enveloppe salariale de l'ensemble du personnel de la santé est de l'ordre de 44 milliards. Donc, en fait, après le calcul, vous voyez comment 44 milliards, on peut payer d'abord les 44 milliards et en plus payer encore les 40 milliards. Donc, vous voyez, il faut une rallonge qui demande effectivement un collectif budgétaire. Je ne sais pas je suis assez sceptique pour que ce collectif puisse intégrer l'ensemble de ces revendications.
Merci.
Alors, s'agissant du protocole d'accord, le protocole d'accord déjà tous, ça, on dit, s'agissant de collectif de 20 000 francs congolais, c'est un problème qui devait déjà être résolu ce mois-ci. Je crois que ça a commencé à être résolu au niveau des provinces, où les 20 000 ont été accordés aux professionnels de santé des provinces, mais ici, et ceux de Kinshasa, bon, c'est un problème qu'on va encore lancer au niveau du ministère des budgets. Alors, s'agissant des autres rubriques, si elles tardent à être exécutées, la raison est simple. Comme je l'ai eu l'occasion de l'inviter hier, le protocole d'accord a été signé le 20 août 2008. Et le 31, il y a eu résurgence de la crise à l'est de la République. Donc, il y avait là un problème de sécurité qui, parfois, demandait, obligeait l'État à consacrer l'essentiel de ses ressources à essayer de prévenir, disons, cet état de désintégration du territoire national. Enfin, pour assurer l'intégrité territoriale et l'unité, il fallait mettre les moyens. Et ça n'a pas terminé au mois d'octobre, tout ça. Au mois de janvier 2009, nous avons eu l'opération au mois d'Aïk. Et tout ça, ce sont des événements qui amènent, entraînent l'État à consacrer l'essentiel de ses ressources.
Merci,
et comme si cela ne suffisait pas, nous sommes en pleine crise internationale. Et dans cette crise internationale, qui tout le monde le sait, trouve son origine, disons, dans la spéculation immobilière aux États-Unis, et qui aujourd'hui a pu comment entraîner quelque chose comme 4 000 milliards de gaps. Ça, c'est connu. À moins qu'il y ait des gens à l'intérieur du pays pour ne pas suivre ces événements.
Monsieur le ministre,
cet état de choses a entraîné par la suite aussi l'effondrement des prix de matières premières sur le plan international. Nous-mêmes, donc, nous avons des problèmes internes. La conjugaison donc des problèmes internes et de ces problèmes externes, on sait que l'État n'a pas eu suffisamment de moyens pour faire face à toutes les revendications. Donc voilà un peu dans quelle situation nous trouvons. Mais alors,
Monsieur le ministre, s'il vous plaît.
Oui.
Nous allons passer à l'étape des propositions parce qu'on sait que vous n'avez pas beaucoup de temps. Il y a aussi quelques auditeurs qui sont en ligne et qui ont quelques préoccupations. On va aussi les prendre. Et puis on passera aussi aux propositions que vous avez par rapport à l'étape actuelle. Mais si vous pouvez, parce que là nous avons Mayoko qui est à Kikwit qui nous a appelé. Il y a aussi Maître 25 et Damoba au Katara qui nous ont appelé, qui vont intervenir. Et nous allons revenir à vous par rapport aussi à leurs préoccupations pour voir comment on va procéder avec le reste de la situation.
Ok, alors il fallait quand même, c'était quand même important que on étale quand même la situation aujourd'hui pour que les gens interviennent à bon escient.
Okay.
Alors, s'agissant des propositions, comme je l'ai dit, pour toute équipe des promesses, de tenues, qui s'articule autour des arriérés engendrés par le réajustement de la prime des fonctions professionnels de médecins qu'on doit réajuster par rapport à la prime de fonction académique des professeurs ordinaires de l'université, et par rapport aux arrières de prime de risque de province, par rapport au protocole d'accord. Nous avons dit, et ça je le répète, que nous allons essayer de trouver une solution dans le cadre budgétaire. Et c'est un travail que je vais faire incessamment d'ailleurs avec le ministre du budget des finances pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais l'essentiel, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, on va essayer de voir aussi comment prévoir un échéancier de leur paiement pour les prévisions 2010.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. On vous garde encore pour avoir aussi quelques auditeurs qui sont déjà en ligne. On va appeler Mario Kofi Kakekuit et Maître Vincent Kétamoba après quelques épisodes de temps.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 0 81 99 77 800, par internet ca@radiookaki.net.
Mayoko, vous êtes à Kikwit dans la province de Bandundu. Bonjour.
Oui, bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kaki.
Merci, vous avez suivi, monsieur le ministre de la Santé, vous avez suivi la situation et la problématique posée par rapport à ces problèmes des prestations dans les hôpitaux à travers le pays. Quelle est la situation à Kikwit où vous êtes présentement par rapport à ces problèmes de la prestation dans les hôpitaux?
Ok, je vous dirais, c'est vraiment quelque chose à déplorer. Même ici à Kikwit, il y a des difficultés à l'hôpital, tel que notre hôpital de référence de Kikwit. Donc, même les médecins, je regrette, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à résoudre les revendications des médecins. Qu'est-ce qu'on veut ?
Mayoko, précisément, quels sont les problèmes concrets que vous avez à l'hôpital général de Kikwit ? Quels sont les problèmes que vous rencontrez, vous, population à Kikwit ?
Mais à l'hôpital, nous rencontrons des problèmes tels que la surfacturation, hein, le manque des autres matériels. Hein, c'est ça, des problèmes que nous constatons ici.
Vous avez des problèmes de surfacturation et manque de matériel, c'est ça le problème concret que vous avez avec l'hôpital.
Mais oui.
Merci beaucoup.
Je dirais ceci.
Oui, rapidement.
Il faut vite trouver des solutions aux revendications des médecins. Car ce sont des personnes qui sont là pour traiter nos corps. Donc, je voudrais demander un peu, chez le ministre, est-ce qu'il peut nous donner le nom de son médecin? Ou bien, ils suivent leur traitement à l'étranger, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas répondre aux exigences des médecins. Quoi.
Merci Mayoko de votre intervention et monsieur le ministre va vous donner les réponses, va donner les réponses à toutes vos préoccupations. Nous allons aussi prendre Maître Vincent qui est à Moba dans les Katanga. Maître Vincent, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Moba dans la province du Katanga. Quels sont les problèmes spécifiques que vous avez liés aux problèmes des prestations dans les hôpitaux?
L'hôpital général d'urgence de Moba, c'est un grand hôpital, mais comme vous le savez, en fait, les hôpitaux, ils évitent aussi un problème de certains spécifiques, faute de matériel spécifique. Par exemple, matériel pour les camions de compagnie, c'est un problème, on n'arrive pas vraiment à accéder à ces services, il faudrait que pour les femmes qui doivent faire ces examens, qu'elles se déplacent, qu'elles aillent pour Calémie ou en Libassie, c'est encore un problème, il y a d'autres problèmes.
Maître Vincent, vous dites que vous n'avez pas, il n'y a pas de matériel pour les examens spécifiques, même, par exemple l'échographie. Et combien de kilomètres faut-il parcourir pour ces examens? Vous parlez de Lumbashi et Calémie, ça combien de kilomètres?
Bon, Calémie, c'est grave, c'est comme 300, plus ou moins 300 kilomètres de Moba pour arriver à Calémie afin de faire ces examens.
Et qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse améliorer cette situation, Maître Vincent?
Non, justement, que l'État va vraiment prendre ses responsabilités et que le gouvernement puisse au moins voir le problème des hôpitaux de manière globale, de générale. On arrive quand même à trouver ce matériel, à envoyer dans tous les hôpitaux. Les hôpitaux ne sont pas, justement, les hôpitaux de Kinshasa ne sont pas considérés comme hôpitaux. Hein, Kinshasa n'est pas la ville démocratique du Congo. Il faudrait que le ministre puisse au moins étendre sa vision un peu partout, dans la République, aller dans les territoires, voir dans les hôpitaux qu'est-ce qui manque pour faire faire part aussi de ce qui se passe.
Merci, Maître Vincent, de nous avoir appelé des mots bas. C'est dans la province du Katanga où nous saluons tous les auditeurs des radios Kapi qui nous écoutent de ce côté-là. Nous allons rentrer ici à Kinshasa parce qu'il y a aussi Docteur Sanji qui est en ligne. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont vos préoccupations par rapport à ce thème abordé sur la grève qui est amortie ici à Kinshasa et sur la prestation d'une façon générale dans les hôpitaux à travers le pays?
Bah, vous savez, le système sanitaire congolais est caractérisé par une crise qui a commencé depuis que les Belges étaient partis en 60 et on n'a pas senti une volonté politique de reprise, sauf vers les années 81 lorsqu'on a adopté le concept de frais de santé primaire et l'organisation du pays en zone de santé. Et pendant les quelques années, jusqu'à les années 90, on a commencé à mettre en application ce concept, mais depuis lors, la médecine, le service de santé a été complètement abandonné au pays aujourd'hui, que ce soit les zones de santé elles-mêmes, que ce soit les hôpitaux qui sont censés être les lieux de référence pour les centres de santé. En fait, il y en a très peu qui fonctionnent. Et tout le système santé du pays, ceux qui fonctionnent, dépendent de l'assistance extérieure. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congolais qui a la chance de survivre dans le domaine de la santé, c'est celui qui a une assistance plus ou moins extérieure. Or, ce que les étrangers font, c'est qu'ils font une politique de santé en fonction de leur politique de coopération. Alors, il y a donc un chevauchement de toute une série de coopérations qui chacun vient avec ses projets, sa façon de voir les choses, et ses façons de voir les choses ne vont pas toujours dans le sens de ce que l'État congolais fait. Donc, le ministère de la Santé se retrouve terriblement affaibli, et il est affaibli parce que d'abord, il n'a pas de budget. Et lorsque vous regardez même, indépendamment de la vétusté des bâtiments, quand on voit les équipements, mais aussi un problème de la formation de personnel. Parce que vous savez que le système d'éducation, il baisse, et a fortiori la formation médicale. Donc, quand vous comparez la médecine moderne qui s'est faite ailleurs, nous en sommes à une médecine du 19e siècle, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait plus ailleurs, que nous faisons parce que la formation ne suit pas ce qui se passe.
Docteur Sanji.
Oui.
Parce que je me rappelle bien que vous avez été une fois ministre de la Santé, n'est-ce pas?
Oui, absolument.
Mais aujourd'hui, quelles sont les propositions? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour améliorer la situation des prestations dans nos hôpitaux? Vous avez posé le diagnostic, mais quelles sont les propositions aujourd'hui pour que cela puisse améliorer?
Les propositions, d'abord, il faut que l'État prenne le fonds de la santé de manière sérieuse. On ne peut pas consacrer 0,5 à 1% le budget de la santé et s'attendre à ce que le système de santé fonctionne. Mais j'aimerais rappeler qu'en 60, lorsque nous avions que 12 millions d'habitants, la colonie consacrait 12% de son budget pour la santé publique. Donc, la première des choses, si on veut éviter toutes ces grèves récurrentes, c'est qu'on donne un budget conséquent et pour moi, un minimum de 10% du budget de l'État doit être consacré à la santé. Et c'est ça qui va permettre que progressivement, on résolve non seulement le problème salarial de tout le personnel de santé, mais en même temps, on puisse équiper les hôpitaux. Et lorsque les gens se sentent qu'ils sont quand même bien payés, ils prennent conscience que perdre cet avantage-là, on se risque. Et en ce moment-là, l'État peut être plus exigeant par rapport à eux, mais en même temps aussi, l'État doit consacrer beaucoup de moyens à l'éducation nationale, parce que les médecins, le personnel infirmier, les administratifs sont formés par le système de l'éducation nationale. Donc il y a une corrélation qu'il faut mettre entre le budget à consacrer au service de santé et au service de l'éducation nationale.
Merci, Docteur Sandy, de votre contribution. Je rappelle à nos auditeurs que vous nous avez appelé de la ville de Kinshasa. Merci de votre intervention. Nous allons laisser aussi le temps à Monsieur le ministre Auguste Mopiti Mukulumaya, ministre de la Santé du gouvernement central, de pouvoir réagir et répondre aussi aux préoccupations des trois premiers auditeurs. Monsieur le ministre, vous avez écouté Mayoko de Kikwit, Vincent Demoba et le Docteur Sandy qui nous a appelé de Kinshasa. Quelle peut être votre réponse?
Eh bien, je veux commencer par ce qui me paraît être une préoccupation importante, c'est celle du docteur Sondi. En fait, pour renforcer le système de santé, il faut absolument que nous puissions rehausser la part allouée du budget national au secteur de la santé. Aujourd'hui, on est
à quelque chose comme 7-8%. En incluant évidemment le budget qu'on alloue dans le cadre de la lutte contre le sida à divers ministères. Mais le budget qu'on alloue au secteur de la santé est inférieur à cela. Et encore, et dans le décaissement, on est encore, je crois, à moins de 10% de l'exécution du budget. Donc, il faut absolument qu'il y ait une volonté politique, j'estime, pour rehausser de la part du budget de l'État au secteur de la santé. C'est la seule façon pour nous de réhabiliter les infrastructures sanitaires, d'assurer un encadrement approprié aux ressources humaines, d'équiper les hôpitaux et d'assurer l'approvisionnement des médicaments qui soit de plus évidemment abordable à l'ensemble de la population. Bref, notre problème ici, le grand défi, c'est de voir comment renforcer notre système de santé. Alors, pour y arriver, évidemment, il faut allouer au budget quelque chose comme 10%. Parce que la barre fixée par la déclaration d'Abuja, c'est 15%. Connaissant le déficit dans notre pays, selon le modeste, si on peut arriver à 10%, on peut faire un utile. Alors, s'agissant de questions spécifiques posées par des auditeurs,
oui.
La surfacturation. Mais écoutez, là, d'ailleurs, la situation c'est au niveau des hôpitaux. Là, il n'y a pas encore l'occasion de parler des recettes réalisées dans les informations sanitaires. Est-ce que vous savez que ces recettes font l'objet de partages immédiats après leur encaissement par les prestataires, les honoraires, les ceci. L'État ne reçoit rien. Mais en plus de ça, on dit que l'État ne fait rien. Et ce qui est perçu, il faut aller demander, faites les contrôles, vous pour savoir combien on alloue, disons, à l'entretien de infrastructures. C'est un problème. Alors, la question de surfacturation, c'est pas à poser au ministre de la Santé, c'est à poser à ceux qui gèrent les formations sanitaires. Parce que, là, évidemment, nul ne peut se faire prévaloir de ses propres certitudes. Mais ici, il faut reconnaître que l'État a abandonné la gestion hospitalière, disons, entre les mains des prestataires. Et voilà. Ici, il faut une facturation, il se paye les recettes. Bon, bref, voilà comment l'État, voulant récupérer l'initiative, ça pose problème. Alors, s'agissant de mon médecin, je dois vous dire que j'ai deux médecins. Le premier médecin, c'était le docteur Mutombo. Il est au palais du peuple, c'est lui qui s'occupait des députés, c'est lui qui m'a suivi pendant tout le temps j'étais à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est le docteur Limbolé qui est le cliniste d'Aléma qui me suit. Alors j'aimerais indiquer à l'auditeur que moi je suis un chef coutumier. Ça fait 20 ans que j'étais dans la chefferie de Bakissi, dans le territoire de Chabunda, où j'ai pressé. Et je faisais le tournée à pied, le médecin, c'était le médecin des officiers généraux de recherche. Donc, moi, je n'ai pas de prise à l'extérieur. Deux. Pour le deuxième auteur.
L'auditeur Vincent de Moba, oui, qui a parlé de problème d'équipement, oui.
Manque d'équipement, oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous connaissons et je crois que c'est un défi, évidemment, pour nous de pouvoir rééquiper tous les hôpitaux. Et ici, je dois vous dire, nous avons 515 ans de santé que nous devons rééquiper. Et en faisant des simulations, nous avons trouvé quelque chose comme 830 millions qu'il nous faut pour rééquiper, pour approvisionner de façon convenable les médicaments sur l'ensemble du territoire.
830 millions de dollars.
Le budget national ne propose que 13 millions.
830 millions de dollars.
Et en même temps, il faut savoir que poser la question à l'hôpital général de Bondo, à l'hôpital général de Yuzu, à l'hôpital général de Diofa, et bien d'autres même d'Ikela, ils vous diront que le gouvernement fait quand même quelque chose pour les doter de moyens logistiques pour qu'il y ait d'abord de l'énergie et même des temps. Parce qu'il y a des députés qui sont venus ici, qui on a pu remettre des échographes, des radios, tout ça. Tout ça, c'est le gouvernement qui a fait. Mais étant donné l'ampleur des problèmes, écoute, on ne donne qu'à ceux qui se sont manifestés et par rapport à ceux qui se trouvaient encore à l'entrepôt. Mais nous veillons à ce que nous puissions rééquiper tous les hôpitaux, et nous sommes conscients que sans équipement diagnostique, mais écoutez, quel travail les médecins peuvent faire. Donc nous sommes conscients de ce problème, mais nous sommes du fait un problème de moyens.
Merci, monsieur le ministre. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps dans cette émission, mais permettez que nous puissions prendre aussi des autres auditeurs qui sont en ligne. Il y a Dr Sangwa qui nous appelle de Kinshasa, il y a Ziza qui est à Bukavu. Dr Sangwa, bonjour.
Bonjour, je suis en train de suivre avec beaucoup d'intérêt, mais il me sera difficile d'intervenir après le passage de son excellence et de mon ministre, le docteur Sonji.
Vous n'avez pas une proposition pour le moment. Vous avez suivi ce que monsieur le ministre a dit, vous avez suivi le docteur Sonji et les autres auditeurs. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Tout à fait, mais je voudrais tout simplement ramener l'ascenseur pratiquement au rez-de-chaussée en disant que la situation générale des hôpitaux en RDC est catastrophique. Et si nous devons appeler le chat par son nom, je pense que il faudrait tout reprendre et il faudrait peut-être créer une deuxième roue pour que la machine puisse redémarrer de nouveau. D'une façon générale, c'est catastrophique.
Docteur Sangwa, vous pensez que la situation est tellement désespérée, malgré ce que M. le ministre a présenté comme tableau, comme effort, vous pensez que la situation est tellement désespérée qu'on doit faire table rase, c'est ça?
Non, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, mais je ne dis pas qu'il faudrait faire table rase. Les propositions, on en a déjà eu, ce n'est pas la première proposition, mais le problème, c'est au niveau de la réalisation. Et c'est le budget que nous sommes en train de déplorer qui n'est pas à la hauteur pour satisfaire tout le monde.
Merci, docteur Sangwa, merci de votre intervention. Je crois que ça rejoint quand même ce que M. le ministre a dit, ce que docteur Sangwa a proposé, même Maître Vincent qui nous a appelé des mots Katanga. Aziza, vous êtes à Bukavu aussi. Aziza, bonjour. Et là, nous avons un problème de ligne avec Aziza. Aziza, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, je suis en ligne, je vous écoute, je dis bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Merci. La situation à Bukavu, comment elle se présente? Quelle est votre préoccupation par rapport à ce thème sur la situation de nos hôpitaux? Vous êtes à Bukavu, Aziza.
En fait, la situation de Bukavu ne s'établit pas aussi comme l'ont dit mes prédécesseurs. En fait. Donc, nous sommes tous, la situation est catastrophique, comme on a dit, dans tous les pays en général. Et la
vie
de Bukavu,
il n'en fait
pas
une exception. Et Aziza, quand vous parlez de la station catastrophe, ça veut dire qu'aujourd'hui à Bukavu, on ne peut pas se faire soigner, il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas un dispensaire, nulle part on peut avoir des soins, c'est ce que vous dites?
Non, c'est pas qu'il n'y a aujourd'hui pas d'hôpital. Mais il faut regarder la condition dans laquelle les hôpitaux évoluent, quoi. Mais la condition dans laquelle les hôpitaux, on travaille dans ces hôpitaux-là. Par exemple, je peux dire que bon nombre de nos hôpitaux sont beaucoup plus confrontés à des métiers sur problèmes, notamment le problème des liens dans lesquels ils évoluent. Donc, on est beaucoup confrontés. Les liens de travail sont beaucoup plus confrontés à un lien de poteau, ainsi, je peux appeler ça comme ça.
Ça veut dire quoi, des dépotoirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on égarde quoi, les braises, on garde des farines, des maïs? Quand vous parlez d'un dépotoir, ça veut dire quoi, Aziza?
La saleté, la poubelle, on voit la poubelle partout. Donc, quelqu'un qui est entré, par exemple, un garde malade, qui est entré pour donner des services comme ça à son membre de famille, mais malheureusement, il est entré en bonne santé à l'hôpital, mais il est aussi malade. Pourquoi? Parce que la saleté, un problème de saleté, et aussi un problème des hommes de santé. La plupart des médecins souhaitent de faire, donc ils ne sont pas vraiment beaucoup plus formés. Donc, il suffit seulement que quelqu'un, si à son niveau, il se voit capable d'injecter une personne directement, il se croit aussi être un médecin. Et on a un problème à soulever ici chez nous, je vois aussi c'est un problème des salaires. Les conditions salariales ne sont pas vraiment dignes de cela. Comme je vois déjà qu'à Kinshasa, il y a une crise. Donc, ici chez nous, on emboîte beaucoup plus le pas des meilleurs camarades qui sont là à Kinshasa. Comme ça commence déjà à Kinshasa, donc ici chez nous, ça sera la même chose. C'est que nous déplorons.
Merci, Aziza, d'être intervenu de Bukavu. C'est dans la province du Sud-Kivu. Nous saluons tous les auditeurs des Radio Kapi qui nous écoutent dans cette partie du pays. Nous allons revenir à vous, monsieur le ministre Auguste Mopepi Mukulumania. Par rapport à ce que Aziza vient de dire, là, l'effet d'entraînement, vous ne craignez pas l'effet d'entraînement par rapport à ce qui s'est fait à Kinshasa, dans d'autres provinces? Monsieur le ministre?
Ah oui, s'agissant de la grève.
Oui, mais nous avons suivi tout de suite la, l'auditrice Aziz qui nous a appelé de Bukavu. Et la peur que ce qui s'est fait à Kinshasa ne puisse entraîner la situation dans d'autres provinces. Quelles sont les mesures alors pour éviter que le mouvement des grèves amorcées à Kinshasa ne puisse contaminer le reste de médecins qui sont en province et qui puissent emboîter les pas? C'est la peur exprimée par l'auditrice Aziz de Bukavu.
Bien, d'abord, il faudra que j'amène tout le monde à un entendement commun de ce que nous voulons dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, c'est un pays post-conflit, nous sommes dans une situation de reconstruction électorale. Toutes les infrastructures ont été abîmées par les guerres, par l'abandon, par les attaques et tout. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette phase-là. Est-ce que dans cette phase-là, il faut absolument que chacun puisse trouver pleine satisfaction de toutes ses revendications pour pouvoir apporter sa contribution? Bien. Aujourd'hui, nous sommes à un budget de moins de 5 milliards de dollars pour un pays aussi vaste que l'Europe. Pour un pays où il faut quelque chose comme 50 milliards pour relancer le INGA. Il faut, dans le secteur de la santé, je crois, un budget d'à peu près 1 milliard. Parce que je vous ai dit, au bas mot, il faut 830 millions pour les équipements, pour les médicaments, pour la réhabilitation. Bref, il nous faut beaucoup de moyens pour pouvoir d'abord reconstruire le pays. Et nous devons, focaliser toute notre attention là-dessus. Deux, s'agissant du budget, il faudra que tout le monde sache que le budget, ce sont des textualités, le budget de l'État. C'est pas de l'argent comptant. Quand on dit qu'il y a un crédit de 12 millions pour la construction de tel hôpital, prévision budgétaire, 12 millions de dollars, mais c'est pas de l'argent comptant. Encore faut-il que l'État réalise les recettes prévues. Or, aujourd'hui, nous sommes dans le meilleur des cas, à 60% de l'exécution du budget. Donc, si le budget de 5 milliards, que le budget que l'État a pu arrêté pour l'exercice 2009, si nous sommes vraiment performants, on est autour des 60 milliards, donc 3 milliards que nous pouvons réaliser. C'est avec ces 30 milliards que nous devons couvrir toutes les dépenses qui avaient été prévues de 5 milliards. Alors, si en plus de ça, il faut encore ajouter, comme je l'ai dit dans le secteur de la santé, rien que pour les revendications ici, c'est 13 milliards hein, pour les médecins. Alors, eux-mêmes, ils ont prévu, en cas de collectif budgétaire, 25 milliards, plus les 38 milliards, plus les 13 milliards de infirmiers. Nous sommes à quelque chose comme 51 milliards. Alors, pour l'enveloppe de 44 milliards, écoutez, essayons de réfléchir, essayons de revenir sur la terre. Et le budget de l'État. L'État n'a pas, comme je l'ai dit, l'argent de l'État ne vient pas du ciel. L'argent de l'État vient des prélèvements sur les richesses réalisées. Et s'il n'y a pas de production, c'est un problème. Donc nous devons essayer de tout faire pour relancer la production et atteindre une croissance à deux chiffres pour essayer d'avoir un progrès qui permette évidemment de résoudre d'abord la croissance démographique de 3% et essayer alors de faire quelque chose pour un développement durable. Donc voilà, ce sont les grandes questions que j'estime que les grands intellectuels qui sont les médecins peuvent facilement faire.
Merci, monsieur le ministre. Je rappelle à nos auditeurs que vous nous aviez accordé, juste je pense que nous avons presque épuisé les temps que vous nous aviez accordé. Oui. Dans cette émission, nous vous disons merci d'avoir accepté de participer pour cette première partie de l'émission avec les auditeurs de Radio Capi et d'avoir répondu aux préoccupations des uns et des autres. Mais nous avons une dernière question, monsieur le ministre, d'un auditeur qui demande si avec les grèves, cela ne donne pas la possibilité aux médecins de travailler plus en privé dans les cabinets privés et ce qui augmente aussi l'accès, ce qui augmente aussi les prix, la facturation élevée qui ne va pas permettre à tous les Congolais d'avoir accès. N'est-ce pas qu'avec des grèves, si on ne fait pas attention, ça va plus profiter aux privés qui vont plus faire des surenchères et augmenter les prix, monsieur le ministre?
Bien, écoutez, comme toujours, moi, ce qui attire, évidemment, c'est le problème essentiel. Ici, l'essentiel, c'est le respect au format d'Hippocrate. Dans ce format-là, j'ai traité le format des aliens. Et les deux formats ont été en commun. Nous nous engageons à nous désigner pour les autres. Est-ce que ce serment-là vaut-il encore quand on fait passer les testaments d'Hippocrate? Il faut bien se parfumer, il faut avoir la bonne pointe, tout ça. C'est un problème. Est-ce qu'on ne trahit pas le serment en abandonnant le malade? Parce que ce n'est pas en abandonnant le malade qu'on peut améliorer son sort. Ceci dit, on comprend les revendications des uns et des autres. C'est vrai que la situation est difficile. C'est vrai qu'il faut améliorer les conditions de travail et les conditions socio-professionnelles. C'est tout à fait, c'est tout à fait légitime. Et ça, je comprends. Et c'est l'effort que nous engageons à faire. Et ceux qui me connaissent à partir du Parlement savent que je dis toujours pour qu'il y ait une reproduction qui a des avantages. Donc, c'est un problème, comment dirais-je, une conviction personnelle, un problème, disons, de patriotisme, un problème de dévouement. Écoute, moi, je travaille pour un idéal, je ne peux pas comprendre que, à un certain niveau, on puisse placer ses intérêts propres par rapport aux intérêts de la communauté. Moi, j'ai 400 000 âmes à Chabunda. La chefferie de Baptiste compte quelque chose comme 400 000 âmes. Et moi, je me contentais de peu sur rien pour l'intérêt de cette population. Aujourd'hui, je crois que je puis me féliciter que la route Bukavu-Chabunda sera réouverte. Ça va permettre de mettre toutes ces populations, de les connecter au circuit économique national. Je crois que le travail que nous avons fait commence à porter des fruits. Et les sacrifices que nous avons consentis pour des filles. Pas seulement parce que je suis ministre, mais parce que sur le terrain, il y a des réalisations qui sont faites. Donc, je vais appeler les uns les autres à mettre un peu de l'eau dans leur vin et à voir raisonnablement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et moi, je suis tout à fait disposé, le gouvernement est tout à fait disposé à rencontrer les revendications, améliorer les conditions salariales, améliorer les conditions de travail. Mais il faut savoir raison garder. Je n'ai pas demandé ce qui excède les moyens de l'État.
Merci, monsieur le ministre. Nous vous disons merci d'avoir accepté de participer dans cette émission, comme je venais de le dire tout à l'heure là. Et nous allons revenir dans ces studios pour continuer avec les autres auditeurs qui sont en ligne. Il y a Dr Robert de Bougavo qui est en ligne, Dr Alima, c'est des Kinshasa qui sont aussi en ligne. Nous allons revenir à eux après quelques plusieurs de secondes.
Moi, je crois avoir terminé.
Merci bien, monsieur le ministre.
Parole aux auditeurs.
Docteur Robert, bonjour, vous êtes à Bukavu. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bonjour à tous les auditeurs de ma radio Capri. Pour enchaîner avec tous les auditeurs, c'est vrai, la ville naturelle de Bukavu a semblé trop dramatiser la situation de la ville de Bukavu en particulier et le grand sud Kivu en général. Mais il faut dire que si en province du sud Kivu tout fonctionne, c'est grâce à l'appui de partenaires à plus de 98%. Et là, monsieur, sur les finances, le ministre doit me démentir. Et moi, je voudrais vous poser une question par rapport au statut spécifique de médecin.
Désolé,
docteur. Qui est signé depuis 2006, si je ne m'abuse.
Docteur Robert.
2005-2006, oui.
Docteur Robert, oui, je crois que le ministre est parti parce qu'il a d'autres occupations. Mais dis-moi, je me rappelle bien au début.
La contribution à ce sujet-là serait de dire.
Si on peut s'écouter, docteur Robert.
Je ne pas le corps.
Docteur Robert. Je voulais juste vous rappeler que le ministre a donné la réponse par rapport au problème des statuts spécifiques de médecins. Il a dit que les travaux sont en cours va être exécutés d'un moment à l'autre, juste pour vous apaiser. Maintenant, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
La contribution à ce niveau du débat est de dire que le problème devait trouver une solution à partir du financement du gouvernement. Et non de financement des partenaires. Puisque comme son excellence, monsieur le ministre Marie de Sauvage l'a dit, les partenaires qui viennent nous donner avec leur philosophie, avec leurs objectifs, avec leurs indicateurs, et c'est par rapport à ce que j'ai avec tous ces appuis-là. Mais sinon, ce qui est vrai, c'est que si le gouvernement ne se laisse pas prendre, comment dire, si le gouvernement ne prend pas en charge sa responsabilité de dire celui qui a la souveraineté de la population et faire dire que la situation va le devoir l'Empire. Et à ce sujet, je vous dis clairement que j'encourage la grève des médecins au niveau de Kinshasa. Et d'ailleurs, je me pose la question à Provence, qu'est-ce qu'ils attendent?
Merci.
Qu'est-ce qu'ils attendent, puisque en février, on va passer des jours, c'est le problème.
Merci, Dr. Robert, d'être intervenu des Bukavu. Nous vous disons merci et nous saluons tous les auditeurs de Radio Capi qui nous écoutent à Bukavu. Dr. Alima, si vous êtes à Kinshasa, vous avez venez de suivre les propos de Dr. Robert qui pense qu'il faudrait que le système sanitaire soit financé entièrement, sinon un grand pourcentage par l'État congolais. Quel est votre point de vue par rapport à cette proposition?
S'il vous plaît, je n'ai pas bien, je ne dis pas très très bien. Et qu'est-ce que le conseil Robert? Puisque moi, j'ai travaillé pendant très très longtemps dans le sud d'Ivou. J'ai été médecin chef de zone de santé de Bouyakiri, de Kisale, et un peu aussi jusqu'à la sortie de Kisangani.
Il a parlé en deux termes. Il a dit ceci. Il a dit que à 98%, le système de santé dans la province du Sud qui voulait financer à 98% par les partenaires extérieurs. Et là, la proposition, il dit qu'il faudrait que le système de santé soit plus financé par l'État que par les partenaires extérieurs. C'est ce que je voudrais vous demander. Quel est votre point de vue par rapport à cette proposition?
Oui, effectivement, au Sud Kivu et au Nord Kivu, c'est le système qui fonctionnait. Qui fonctionnait très, très, très bien. Et dans ce système, je crois qu'il faut qu'on redéfinisse quelques paquets. Il y a d'abord la notion de soins de santé primaire. Si on ne connaît pas la stratégie de soins de santé primaire, je vous assure que les malades n'auront jamais de soins. Cela veut dire, si je vois ici à Kinshasa, par exemple, je suis dans la ville de Kinshasa, où depuis une année, je suis en train de voir le centre de santé, et c'est quand il faut donner un médicament aux malades, pour que le malade n'a plus l'argent. Tout ce qu'on fait, on met la consultation, on demande l'argent des laboratoires et tout ça, et quand il est parti, il n'a plus l'argent. Là, ça ne va pas. Moi, je crois qu'on doit avoir des systèmes, des niveaux de filet, où on commence à travailler à partir des postes d'animation sanitaire, où ça ne demande pas beaucoup de maladies, de médicaments. Vous avez un paquet du poste de santé, un paquet du centre de santé, un paquet de l'hôpital général de référence, que les points de chute de tout ça, c'est le niveau central qui doit donner des points. On n'a pas besoin de 200, 300 produits pour qu'on puisse organiser la santé. Si vous voulez organiser la santé des très riches, des pays très riches qui coûtent très cher, oui, vous allez besoin de 50, 60 produits. Mais nous, on a travaillé. Et au sud Kivu, et dans le nord Kivu, j'ai été là aussi, j'ai été à l'Équateur, où j'ai vu des expériences, avec une trentaine de médicaments, il y a moyen. Quand les malades, dès qu'ils quittent la maison, ils sont le tarif qu'ils peuvent avoir pour le traitement. Donc, à ce moment-là, les soins deviennent pour le malade. Mais le soin ne doit pas être orienté dans l'argent. Là, ça n'a pas de sens. Le médecin gagnerait jusqu'à 90% de leur salaire. Et les hôpitaux publics, on est en train de prêcher. J'ai suivi très bien sur l'expérience de M. le ministre. Il parlait de ses hôpitaux. Je le félicite. J'étais son voisin. Comme j'étais à Kabunda, j'étais son voisin. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas mettre le malade au centre ici dans la ville de Kinshasa. Cela veut dire qu'on doit avoir deux types de médecine en deux vitesses. La médecine qui regroupe beaucoup de malades, puisqu'ils viennent à un coût accessible, ils savent les prix, ils participent, dans leur participation au volontaire de soins. L'arme avec laquelle on commence, on est demandé de trouver s'ils ont besoin de la santé. Nous avons vu dans notre expérience, ils étaient en train de faire des exploits. Ils ont construit les centres de santé en ville, et c'est en dernier lieu que l'UNICEF, de temps en temps l'OMS, et pour la plupart des UNICEF, ils venaient remettre le matériel et éventuellement les tôles. Et tous ces problèmes que nous avons ici, de la tuberculose, tout ça, c'est la prise en charge que je veux dans le centre de santé. On est en train de les hospitaliser
pour donner trop de problèmes. Moi, je crois qu'il faut remettre ça au niveau des ONG internationales. Bien sûr, l'État, on ne le dit pas des partis, parce qu'avec les ONG internationales, nous avons juste des résultats.
Docteur Alimati,
oui.
Mais jusqu'à quand on va toujours remettre le système aux ONG internationales, jusqu'à quand? Vous pensez aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme formation, tous les médecins spécialisés en santé publique, on ne peut pas parvenir à faire un plan personnel et pouvoir gérer le système de santé et recourir vraiment aux ONG internationales? C'est la dernière question.
Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense bien que dans la grande couche de jeunes médecins qui sont sur le terrain, ils ont l'expérience de soins de santé primaire. Le premier geste que nous verrons qu'il y a un mouvement vers les soins de santé primaire, c'est de voir réellement qu'on a recruté les médecins qui ont travaillé dans ce système. Or, ce n'est pas le cas. Il faut que le ministère de la Santé recrute des médecins qui ont fait des exploits énormes dans le système, qui ont rendu ces zones de santé autonomes. Et moi, par exemple, en tant que médecin chef de zone de santé, j'étais ministre en 82, je n'ai jamais eu un seul rôle de notre bureau de santé publique. Je n'ai jamais reçu. Je travaille dans les zones de santé et tous les gens qui étaient dans les zones de santé, ils nous appelaient les gens de la GECAMIM. C'est un problème d'organisation et que le point de départ, c'est la nomination des gens qui sont en train de disparaître. Je peux vous numérer les noms.
Et le docteur Hassani, parce qu'il y a plein d'autres médecins aussi qui sont en ligne. Il y a Hassani qui est à Galémie, docteur Lazare qui est à Lumbashi, qui sont des gens en ligne. On n'a pas assez
est-ce
de temps.
Est-ce que je pourrais vous
ajouter dans 30 secondes, terminez votre idée dans 30 secondes, parce qu'il y a plein de gens sur la ligne.
Qui vont je voulais ajouter seulement deux éléments qu'il faut ajouter dans les zones de santé, que nous, on veut être des zones de santé modèles. Et c'est tout d'abord, il faut absolument étiqueter qu'est-ce qu'est une zone de santé. Ça, c'est très important, et avec toutes les structures qui y sont. Nous devons avoir dans toutes les structures de santé ce qu'on appelle un ordinogramme. Les ordinogrammes, ce sont les arbres de décision. Pourquoi un infirmier, quand il est en train d'examiner un patient, à la fin, il dit, voilà, le malade, il a les paris. C'est qu'il y a un arbre de décision. Cet arbre de décision doit figurer dans toutes les structures de santé. Voilà, ça c'est les AB. Mais et les ressources humaines qui ont travaillé sur les soins de santé primaire sont encore là. Il y a, je crois, docteur Makamba, que j'apprends qu'il est à l'Équateur. Il y a Moussine qui sont tous à l'Équateur. Le docteur Lipom de la CTB. Il y a le docteur Mirendi. Il y a les docteurs.
Ils sont nombreux, docteur Alimas. On ne saura pas les citer sur les antennes, s'il vous plaît. Mais après, il y a même de votre idée, sinon, on ne pourra pas citer tous les spécialistes.
Ça. Donc, c'est ça. Et on n'a pas besoin de 30, 40 produits pour faire fonctionner les zones de santé.
Merci beaucoup, docteur Alimas, de votre intervention. Merci de toutes les propositions. Vous nous avez appelé des Kinshasa. À ce niveau, vous êtes Akalimi, Hassani, bonjour. Hassani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Akalimi, c'est dans la province du Katanga. Quelle est la situation par rapport à tous ces débats, à toutes les propositions que le médecin a avancées, les autres auditeurs ainsi que M. le ministre? Quelle est votre contribution à ce niveau?
En fait, nous continuons toujours à regretter les propositions du ministre. Pourquoi pour payer les médecins, il faut que le ministre se demande, il faut beaucoup de moyens, il faut qu'il y ait de l'argent, mais pour leur salaire, pour les salaires des députés, pour les salaires des membres du gouvernement, là on ne demande pas beaucoup de moyens, là on les paye facilement. Mais nos médecins qui assurent notre vie, qui assurent notre vie ici, pour les payer, il faut beaucoup de moyens. Les enseignants, il faut beaucoup de moyens. Nous sommes vraiment inquiets. Nous sommes vraiment inquiets. Maintenant, il faut poser la question au ministre. Jusqu'à quand le gouvernement congolais trouvera des moyens pour payer les médecins, payer les enseignants? Aujourd'hui, c'est les médecins qui dérangent ici à propos de la grève. Demain sera les enseignants. Mais on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a un état de droit au Congo? Est-ce qu'il y a un gouvernement qui fonctionne? Les budgets qu'ils parlaient toujours avec des longs calculs, là, on ne sait pas comment justifier ça. On ne comprend pas et nous ne voulons plus de ces histoires-là. S'ils trouvent qu'ils sont incapables de payer les médecins, qu'ils démissionnent.
Ça veut dire quoi?
Ils sont les garants de la nation.
Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit qu'ils ne sont pas incapables de payer. Il n'a pas dit qu'ils sont incapables de payer le médecin. Il a donné des propositions qu'ils sont dans les pourparlers avec les médecins pour que les revendications des médecins vont trouver la solution tout à l'heure. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes académique. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse améliorer la situation?
Nous proposons, il faut que l'État soit juste. Comme l'État paye les ministres, comme l'État est en train de payer les députés, il faut qu'on commence à payer même les médecins comme ça. Les enseignants comme ça.
Merci, Hassan. Merci. Merci de votre proposition.
Merci. Et même, il y aura encore des réunions. Mais les médecins continueront toujours à...
Merci à Saline de nous avoir appelé des calémies.
Merci. Au majeur des prix, au majeur des histoires.
Merci, merci beaucoup à Saline de nous avoir appelé de calémies dans la province du Katanga. On a écouté toutes vos propositions. Nous allons aussi prendre Dr Lazare qui est à Lubumbashi. Dr Lazare, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Si vous avez suivi Dr Alima, si, il a pensé que on ne peut pas aujourd'hui s'en passer des ONG internationales dans le système de santé en RDC. Quel est votre point de vue par rapport à sa proposition?
Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec son point de vue.
Expliquez-vous.
Mais pourquoi? Parce que s'il faut dépendre des ONG internationales, bien. Ça serait vraiment être incapable. Le problème qui est là, c'est essayer de fournir encore le personnel et essayer de rééduquer encore dans le système sanitaire. Vraiment, que c'est utile. Ce n'est pas encore utile de chercher encore des ONG internationales pour en dépendre chaque jour. Ce n'est pas bien.
Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut proposer? Vous êtes à Lubumbashi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut proposer, par exemple, pour le problème spécifique de Lubumbashi, là où vous travaillez? Qu'est-ce qu'il faut proposer pour améliorer la prestation?
Pour améliorer la prestation, comme proposition, moi, j'ai demandé au ministre, comme il est là, je suis sur une mentor.
Le ministre est déjà parti, il n'avait pas beaucoup de temps, il nous avait accordé une trentaine de minutes, il est parti, mais vous pouvez quand même avancer vos propositions.
Oui, moi, j'ai demandé pour quand même réformer dans l'enseignement universitaire à ce concerne des médecins. Deuxièmement, il faut que vous suivez des stages. Parce que nous avons constaté que la plupart des médecins qui terminent actuellement ne sont pas seulement approfondis. C'est aussi un problème. Un deuxième problème, c'est aussi le niveau intellectuel des étudiants qui terminent. Donc, il y a la plupart des étudiants médecins et en sciences de finance qui terminent, mais qui n'ont pas de base. La base n'est pas de bon fruit.
Docteur Lazare, vous parlez des étudiants médecins qui n'ont pas de base, mais ces étudiants sont enseignés par des professeurs qui sont aussi des médecins et des professeurs qualifiés. Comment vous dites qu'ils n'ont pas de base?
Donc le problème c'est là, pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de base? Parce que la plupart actuellement, il faut que ce sont des facultés qui sont de plus en plus techniques. Donc nous demandons vraiment des spécialités ou des techniques. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Vous allez voir un étudiant qui a 2-1 ou un 2-2, mais l'étudiant, il finit toujours sa corrompe, même s'il a échoué. Et le médecin qui donne pour là accepte d'être corrompu parce qu'il est ou parce qu'il a manqué quelque chose à la maison. C'est ce que nous déplorons.
Merci, docteur Lazare, d'être intervenu de Lubumbashi dans la province du Katanga. Nous allons aussi prendre André qui est en ligne ici à Kinshasa. André, bonjour. André, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
André, s'il vous plaît, éloignez-vous de la radio facile qui est juste à côté de vous, sinon vous ne pourriez pas être entendu sur les antennes. S'il vous plaît, André, éloignez-vous de la radio tapis, soit il faut l'arrêter carrément, sinon vous ne saurez pas intervenir, ça fait les échos retour, c'est pas bon ici au studio. André, maintenant, ça va, vous m'écoutez bien?
Ok. Mon problème est le suivant, et okay. Vraiment, je regrette beaucoup que j'ai raté le ministre qui est parti. Je voulais vraiment parler ouvertement à monsieur le ministre. De toute façon, même s'il est parti, il n'est plus au téléphone, mais il est en train de suivre maintenant. Le problème est que nous devons savoir planifier les choses dans notre pays. Quand on accepte de devenir ministre, et quand on vient à la radio ou à la télévision, on doit savoir ce qu'il faut dire, qui doit quand même intéresser tout le monde. Dans ce sens que, par exemple, la santé pour le moment, vous savez que même avec la reconstruction, ou même pas la reconstruction, mais pour le développement d'un pays, c'est l'homme qui est au centre. Donc l'homme qui est au centre du développement doit être en bonne santé. C'est-à-dire que la santé doit être prioritaire. Pour que la santé soit prioritaire, il faudrait que le ministre qui est en charge de la santé doit savoir planifier les choses. Par exemple, pour une année, il doit savoir le premier trimestre, on va faire ceci, le deuxième on fait cela, ainsi de suite. Même si on ne va pas tout faire, mais on a quand même un plan auquel on est en train de suivre cette année, l'année prochaine, l'année suivante, etc. Parce que c'est continuer à vivre. Et
monsieur le ministre, maintenant il y a la grève. Pourquoi seulement chez nous, dans notre pays, qu'on attend que le problème puisse s'aggraver et maintenant on va commencer à chercher des solutions. Mais les médecins ont déjà, ils ont déjà lancé leur cri il y a déjà longtemps. Moi, je crois que le ministre sait ce qu'il doit faire. Quand il y a des cris comme ça, il faut rapidement rencontrer ces gens-là, parler avec eux. S'ils ont 10 revendications, voir dans quelle mesure on peut résoudre même 2, 3, 4 revendications et à la suite, on continue, on cherche ailleurs, comme il le dit souvent, pour d'autres revendications qui restent. Alors, qu'est-ce qu'il arriverait à lui-même, monsieur le ministre, si 3 mois privé de son salaire, est-ce qu'il va accepter? Ou à tous les ministres du gouvernement, si on leur disait 3 mois, ils n'ont pas leur salaire, est-ce qu'ils ne vont pas marcher? Donc, vraiment, nous regrettons beaucoup. Et maintenant, il y a la grève déjà, les hôpitaux, c'est sec. Est-ce que lui, le ministre, il est dans son bureau? Pourquoi il ne descend pas? Parce que c'est simple.
Oui, monsieur André, s'il vous plaît. André, s'il vous plaît.
Oui.
Vous l'avez dit d'ailleurs quand vous avez pris la parole que le ministre, malheureusement, vous l'avez pas trouvé sur les antennes, il ne saura pas vous répondre directement. Mais je voudrais vous demander là, quelles sont les conséquences liées à cette grève? Vous êtes à Kinshasa aussi, à la grève. Quelles sont les conséquences que vous avez remarquées liées à cette grève?
Les conséquences, en tout cas, si monsieur le ministre, je lui demande, si aujourd'hui même il essaye d'aller me fixer à l'hôpital dans Mayenne ou à Sitambo, il va voir les conséquences de ce qui se passe. Les gens sont en train de mourir au moment même où nous parlons. Lui, s'il est malade, on va l'acheminer vite en Afrique du Sud. Et nous autres, les prolétaires, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons même pas de sous.
Merci.
C'est ça la plus grande conséquence.
Merci André, merci de votre appel. Nous disons merci à vous André et à tous les autres auditeurs des Radio Tapi qui nous ont appelés de Kinshasa et qui nous écoutent ici à Kinshasa. Nous allons aussi avoir notre médecin, je crois bien sûr aujourd'hui, c'est une journée pleine de médecins sur les antennes, je crois. Là, c'est Docteur Léon qui nous appelle aussi des Kalinga, je crois. On va le prendre tout de suite là. Il est temps aussi pour nous de lire un mail que nous avons reçu de M. Diri Ngua, qui est à Nairobi, c'est au Kenya. Il dit qu'il voudrait bien sûr réagir à ce qui s'est dit sur les antennes. Il évoque ici le propos du Docteur Sondi qui a parlé de manque d'équipement. Il dit que l'église catholique de Nairobi lui avait demandé d'inviter les médecins congolais. Il avait accueilli 6 médecins, 4 ont été appréciés et 2 autres ne se retrouvent pas. C'est bien de parler d'équipement, mais il y a aussi un problème majeur des formations. Il y en a qui ont des diplômes, mais la connaissance du métier est nulle. Pour lui, il pense qu'il faudrait aussi renforcer le système éducatif. Nous avons aussi Docteur Léon qui est en ligne à partir des Kananga. Docteur Léon, on va vous répondre tout à l'heure là.
Aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiookapi.net.
Vous écoutez l'émission Parole aux auditeurs des Radio Tapi qui s'épanche ce mercredi sur les conditions des prestations dans les hôpitaux de la RDC. Sachez qu'ici, dans la ville de Kinshasa, le médecin des institutions publiques sont en grève depuis 3 jours. Ils revendiquent l'application de certains points contenus dans le statut spécifique de médecin et le réajustement des salaires et primes. Dans leur cahier des charges, les médecins réclament également l'exécution des accords signés entre le gouvernement et leur syndicat, le Sinamed, en date du 20 août dernier. Quelle est la situation dans les hôpitaux dans votre milieu et comment améliorer la prestation dans les hôpitaux dans l'ensemble du pays? Vos témoignages, points de vue et propositions sont les bienvenus. Nous continuons bien sûr pour en parler. Docteur Léon, vous êtes à Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Bonjour.
Bonjour.
On vous a pris juste au moment où les bulletins de formation venaient de commencer, mais je vais vous lire un mail d'un auditeur qui nous a écrit de Nairobi au Kenya, c'est Jury. Lui pense que le problème que nous avons aujourd'hui dans le système de santé n'est pas seulement lié au salaire, cela est aussi lié au problème de la formation au niveau des universités. Alors il faudrait de sérieuses réformes au niveau de l'université pour améliorer la qualité et les compétences des médecins qui sont lancés sur le marché de l'emploi. Quelle est votre contribution à ce niveau?
Et je pense qu'il a pleinement raison, dans le sens qu'aujourd'hui on trouve des médecins conformes partout, même dans les villes. Je pense qu'il faut d'abord réglementer un peu le système éducatif, connaître réellement les besoins du pays, et à partir des besoins du pays, former le nombre de médecins suffisants pour accomplir ces besoins-là. Mais maintenant, il y a des médecins conformes partout, et ça devient un peu un problème sérieux et compliqué pour le pays, et pour encadrer ces médecins, et aussi pour les payer correctement. Donc c'est un problème, même pour les engager, c'est tout un problème. Ce qui fait que ces gens qui sont déjà très mal formés se permettent à ouvrir les boîtes de ligablo, comme on dit, les ligablo médicales partout pour maltraiter la population.
Mais docteur, au niveau de structures médicales qui existent déjà, de l'État qui existe depuis plusieurs années, comment faudrait-il aujourd'hui améliorer leurs prestations?
À quel niveau?
Au niveau des hôpitaux qui existent depuis plusieurs années, par exemple, des grands hôpitaux qui existent à travers le pays, comment on peut parvenir à améliorer leurs prestations, hormis bien sûr la formation que vous avez épinglée tout à l'heure là, mais par rapport à ce qui se fait déjà sur le terrain dans les hôpitaux, comment faudrait-il aujourd'hui améliorer la prestation?
Oui, je pense que c'est pas seulement le problème de la formation, mais il y a aussi le problème d'équipement dans les hôpitaux. Comme on en parlait il y a un mois maintenant, il y a un problème d'équiper les hôpitaux. Et il y a aussi un problème de fournir le matériel essentiel pour ces médecins. Donc il y a tant de problèmes qu'on doit améliorer et comment on doit encadrer réellement les médecins. C'est pas seulement nous réclamons les salaires, c'est une bonne chose, mais nous devons aussi avoir des conditions de travail valables.
Et docteur, on vous garde encore en ligne parce que nous avons Eric qui nous appelait de Goma et Jean-Pierre aussi. Eric, vous êtes à Goma, bonjour.
Bonjour, oui.
Vous êtes, le premier auditeur, je crois, bien de la province du Nord qui nous appelle aujourd'hui dans cette émission. Nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Quelle est votre proposition pour améliorer la prestation dans nos hôpitaux?
Ah, moi, je crois que si j'ai entendu ça, les médecins ont déclenché une crise. Moi, je crois qu'ils ont pleinement raison de faire pression au gouvernement dans ce sens. Tant quoi, avec notre gouvernement, excusez un peu du terme, mais caractérisé par une inertie, le gouvernement n'aurait pas, bien entendu, pris en compte ces médecins, leurs réclamations. Comme je dis, qu'ils les encouragent, car une fois qu'ils ne pouvaient pas rester entre faire pression au gouvernement, le gouvernement n'aurait jamais pris en compte leurs propositions. Je dis ceci, que le gouvernement, surtout le ministre de la Santé, doit chercher comment encadrer ces médecins. Sinon, on aura tout ça en train d'enregistrer un grand nombre de cas de médecins, tout ça, tout ça. Je crois que j'ai aimé plutôt là-dedans, dans le camp du gouvernement.
Merci, Eric. Vous nous avez appelé des Goma. Il y a Jean-Pierre aussi qui est à Matadi. Jean-Pierre, je pense que vous êtes presque le dernier invité de cette émission. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation en Matadi dans les Bas-Congo par rapport à ces hôpitaux que nous avons évoqués? Quelles sont vos propositions? Nous vous prenons à la fin de l'émission.
Merci beaucoup d'abord pour m'avoir apporté vraiment cette opportunité pour pouvoir intervenir.
Merci.
Je voudrais d'abord vous féliciter pour toutes les émissions que vous passez vraiment à la radio Okapi, entre autres cette émission. Vous êtes vraiment l'unique média qui essaye vraiment de faire tout pour pouvoir vraiment faire le développement social de la société donc congolaise, surtout en cette période. Vraiment, en tout cas, je ne sais pas, si vraiment le gouvernement vraiment prend quand même compte de toutes vos interventions à travers donc vos émissions. Parce qu'il y a la grogne un peu partout, hein. Donc le fonctionnaire, que ce soit le médecin, les enseignants, le militaire, les policiers, tout le monde. Mais le gouvernement a toujours donc de dire pour pouvoir s'expliquer que voilà, nous n'avons pas les moyens. Et nous allons trouver peut-être ceci pour pouvoir peut-être donc. Mais moi je me demande ceci. Parce que, à l'époque de Vital Kamerhe, quand il était président de l'Assemblée, il a dit quelque chose. Il a dit que si on pouvait arriver donc à diminuer un peu le salaire, donc de tout, ces hauts fonctionnaires, essayer donc de diminuer un peu l'objectif, donc de certains conseillers, ce serait quand même une bonne proposition. Mais entre autres, il y a même donc certains dons qu'on nous donne, par des partenaires étrangers. Il y a plusieurs moyens. Mais moi, je trouve que, c'est toujours au niveau des fonctionnaires qu'il y a toujours notre dégrève, qu'il y a toujours la grève. Mais à leur niveau, ça ne se passe pas de cette façon. Mais pour ça, donc, la santé, c'est vraiment la priorité. Mais pourquoi le gouvernement, donc, fait la sourde oreille? Donc, jusque-là, en tout cas, nous sommes vraiment une agence de promo-action. Donc, nous essayons d'observer toutes ces choses dont nous les remarquons climat qui est lamentable.
Merci, merci Jean-Pierre.
Il faut d'abord s'occuper de l'homme.
Merci beaucoup.
D'abord la priorité.
Merci beaucoup Jean-Pierre d'être intervenu de Matadi dans la province du Bas-Congo. On n'a plus beaucoup de temps. Docteur Léon, on revient à vous juste pour clôturer cette émission. Les inquiétudes ont été présentées par les uns et les autres. La dernière question pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Laisser le système de santé au Congo sous les mains des organisations internationales ou soit sous les mains de l'État congolais? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour améliorer complètement? C'est presque la fin de l'émission.
Oui, moi j'estime que ce n'est pas vraiment nécessaire qu'on puisse confier les systèmes sanitaires aux organismes ou aux organisations internationales, comme les autres peuvent le dire. Il faut que l'État congolais prenne ses responsabilités. Il doit se comporter comme un État. Il ne doit pas être observateur. L'État doit émettre. On doit restructurer le système médical au pays et on doit organiser aussi l'éducation pour qu'on améliore un peu la qualité des soins. Moi, je suis un peu étonné de voir que les mêmes médecins qu'on est en train de critiquer ici au Congo sont des meilleurs en Afrique du Sud, ils sont au Zimbabwe, ils sont partout et ils font des merveilles. Donc c'est un problème d'encadrement. Dans ce pays, nous manquons d'encadrement. Il faut qu'on nous encadre pour que nous puissions donner le mieux, fournir le meilleur de nous-mêmes.
Merci beaucoup, docteur Léon, d'être intervenu dans cette émission. Je rappelle que vous nous avez appelé des Kananga et vous êtes d'ailleurs spécialiste en santé publique. Nous disons aussi merci à monsieur le ministre Auguste Mopipi Mukulumanya, ministre de la Santé du gouvernement central, qui a accepté d'intervenir aussi dans cette émission. Et nous disons aussi merci à tous les autres auditeurs de Radio Capi qui nous ont appelés et ceux-là qui étaient en ligne, qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer parce qu'il n'y avait pas assez des temps. L'émission d'aujourd'hui, nous saluons toute l'équipe Tim Poutou, nous saluons Julie Feza, Ben Kabamba, Jean-Noël Mokondo, tous ceux-là qui ont participé à la production de cette émission. N'oubliez pas, fidèles auditeurs, que Parole aux auditeurs va vous retrouver demain, et demain c'est jeudi, et là nous allons parler de quelque chose qui est plus remarqué dans la ville de Kinshasa, partout en RDC et dans beaucoup d'autres provinces. C'est l'usage des produits éclaircissants. L'usage des produits éclaircissants par beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes utilisent des produits éclaircissants. Nous allons en parler demain. Nous allons en parler bien sûr demain jeudi. Pourquoi les gens utilisent plus les produits éclaircissants? Quelles sont les conséquences qui sont liées à ces produits? Et comment faire pour arrêter l'usage de ces produits? Vous pouvez déjà réagir en envoyant un SMS au 09 98 999 222 et par internet à pa@radiookapi.net. P comme parole, A comme auditeur, @radiookapi.net. Comme je tente de le dire, l'émission réalisée par Tim Potou et Julie Feza, Ben Kabambala coordonnée, et Jean-Noël Mokondo a assuré la mise en onde. Tout de suite là, je pourrais bien vous laisser en compagnie de la conférence de presse hebdomadaire de la Monique.